Vous écoutez RTL. Est un vilain défaut.
En tant que spécialiste des trous noirs, tu vas nous parler de l'avenir du futur du système de retraite. Eh bien oui, Igor, je vais t'en parler.
RTL.
Je vais t'aider, Grishka. Merci, Igor.
20h-22h.
C'est à toi, Igor. Ah non, moi je suis Grishka. Igor, c'est toi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et maintenant, donc sur RTL, on raconte le Big Bang avec Grishka, Igor, Bogdanov. Vous avez eu un petit doute là? Vous avez dit, mais c'est une de nos archives ou c'est Laurent Gérard? Ça vous fait rire, le Laurent Gérard?
Laurent, on lui a dit l'autre jour, on l'a rencontré, on lui a dit, là, écoute, on te met au défi de savoir qui est qui. Et oui. Il a hésité un instant, puis il a fini par dire quand même, ça c'est Grishka, il s'est pas trompé, ça c'est Igor.
Bon, ben voilà, nous aussi on va.
Mais il a quand même rajouté, de toute façon, c'est les frères Bogdanov.
Oui, vous êtes une entité, si j'ose dire. Voilà, un mot que vous connaissez bien. C'est un voyage qu'on va faire ensemble ce soir, et je vous remercie d'être avec nous sur RTL, voyage dans le temps. Alors, imaginons, on est dans une machine à voyager dans le temps. De combien faudrait-il repartir en arrière pour assister à la création de l'univers?
Eh bien, il va falloir caler son horloge. On prend une horloge quand on s'installe dans une machine à voyager dans le temps. On affiche l'horaire et on regarde. On regarde 13 milliards et 820 millions d'années en arrière. Et le chiffre est précis.
13 milliards 820 millions d'années. Comment on connaît ce chiffre? Comment on peut dire que ça remonte à cette époque?
En fait, il nous a été transmis par le satellite Planck, qui a été lancé le 14 mai 2009 et dont les données ont été rendues publiques en 2013. Et on sait aujourd'hui, alors qu'on pensait qu'il était légèrement plus âgé, on sait aujourd'hui qu'il est donc âgé de 13 milliards et 820 millions d'années. C'est un chiffre précis parce qu'il est mesuré tout simplement.
D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce Big Bang, cette première seconde, quand l'univers commence à s'étendre?
Alors, revenons en arrière, donc à ce fameux chiffre. Là, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, il n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Eh bien, à la place, on va avoir beaucoup de mal à trouver cet univers parce qu'il est très, très, très petit. Il est beaucoup plus petit que, par exemple, un noyau de cerise. Il est beaucoup plus petit même qu'un grain de poussière. Encore plus petit que la plus petite des particules élémentaires qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le noyau d'atomes d'hydrogène. Il est 1 milliard de milliards de fois plus petit que ce noyau d'atomes d'hydrogène. Autrement dit, c'est pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, c'est 10 puissance moins 33 centimètres. Et pourtant, il est doté, ce petit grain qu'on appelle le pré-espace-temps, il est doté d'une énergie colossale. 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Et puis surtout, une température qui est inouïe. 10 puissance 32 degrés. Alors,
ça fait combien? Parce que là, moi, je suis déjà perdu.
Il faut calculer.
Alors, 32, il faut calculer. Alors,
j'ai pas ma calculette.
On prend la calculette. Et on dit, c'est 1 suivi de 32 zéros. Hein.
10 puissance 1,
hein, c'est 10 puissance 1, c'est. Ça fait combien 10 puissance 1, ça fait.
J'en sais rien. Me posez pas d'école. Alors, moi, je suis le plus nul en maths dans ce studio.
Bah, 10 puissance 2, 10 puissance 1, il y a un 0. 10 oui. puissance 2, il y en a 2, ça fait
D'accord.
100. 10 puissance 3, ça fait 1000. Et donc, 10 puissance 32, c'est 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés.
Donc ça, c'est,
la... c'est vraiment très chaud. C'est la température.
C'est la température de ce petit grain.
Au moment de la naissance de lui.
Au moment de sa naissance.
Et donc, c'est ce qui provoque le Big Bang, le déclic, c'est ça?
Bah oui, le déclic, il est là. Parce que quand on a une toute petite particule comme ça, qui est dotée d'une température aussi élevée, avec une énergie aussi importante, forcément, ça se détend. Et ça se détend de manière fulgurante. Figurez-vous, là, j'ai un verre d'eau, là, sur ma table, là, devant moi. Dans ce verre d'eau, il y a, vous connaissez tous la formule de l'eau.
Hein, H2O, c'est
ben,
ça.
H2O, c'est ça. Donc,
c'est là, je m'en suis sorti.
Mais non, mais on a dit qu'on était très bon RTL. Non, c'est excellent.
C'est quoi?
Ah, je sais pas, l'hydrogène.
Ah ben l'hydrogène, exactement.
L'hydrogène.
Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais nul en maths et en physique.
Ah non, mais non, là, tu témoignes vraiment d'une qualité de pensée extrêmement élevée.
Donc dans ce verre d'eau.
H, c'est donc l'hydrogène. C'est la plus simple des particules. Là, c'est juste un noyau avec un petit électron, une petite particule qui tourne autour. Mmh. Et le noyau d'atomes d'hydrogène, c'est lui qui ramasse toute la masse, pratiquement. Hein. Eh bien, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été formés dans les 3 premières minutes de vie de l'univers. Et plus jamais après. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait une température dans le four cosmique qui soit suffisamment élevée. On commence à 10 puissance 32. 3 minutes plus tard, on chute à 1 milliard de degrés. Et là, c'est devenu trop froid pour continuer la fabrication des noyaux d'atomes d'hydrogène. Ça veut dire que 98% de la masse de l'univers a été formée en 3 minutes.
En 3 minutes. Et c'est pour ça que vous avez intitulé votre livre 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang. Il est publié au courrier du livre. Alors on a le temps ici dans cette émission, c'est un no luxe, et donc on va pouvoir réexpliquer un peu plus dans le détail encore ce qui s'est passé et pourquoi cet univers continue de s'étendre et comment les scientifiques y ont cru ou pas d'ailleurs. Mais d'abord, le mot, il remonte à quand, le mot Big Bang?
Ah, le mot, il a une origine très précise, puisqu'on le trouve prononcé pour la première fois dans un studio, d'ailleurs, un petit peu comparable à celui-ci, sauf que c'était à la BBC, donc en Angleterre. Mm-hmm. Il a été prononcé le 28 mars 1949.
Par qui?
Eh bien, par un scientifique qui est connu, alors vraiment, non seulement en Angleterre, parce qu'il fait partie de la société de la Royal Society, comme mm-hmm. on dit. C'est un astrophysicien, enfin, on ne disait pas astrophysicien à l'époque, c'est un astronome. Mm-hmm. Il est mondialement connu, hein, il est connu en Amérique, il est connu partout. C'est une vedette, il s'appelle Fred Hoyle. Et lui, contrairement à certains de ses collègues, dont quelqu'un dont nous reparlerons tout à l'heure, qui s'appelle Gamow, contrairement à Gamow en particulier, il est convaincu que l'univers est éternel, qu'il n'a jamais eu de début, qu'il n'aura jamais de fin, et que cette histoire de début de l'univers, de naissance de l'univers, dont on commence à parler dans les années 45, 46, après la guerre, oui. que tout ça ne tient pas debout. Et il est tellement excédé lorsque le présentateur à la BBC lui dit « Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'univers, oui ou non, a eu une naissance, comme le prétend votre collègue Gamow ?» Il est tellement excédé que, en colère, il cherche ses mots, il dit mais enfin, quand même, vous n'allez pas me faire croire que l'univers est né d'un Big Bang. Et c'est comme ça que le mot c'est est génial. Né. Il c'est est génial. Né comme ça. Un farouche adversaire du Big Bang, mais puisqu'il il n'y croyait pas, mais il a fait fortune, puisque le mot aujourd'hui, il lui est absolument et éternellement associé.
Très belle histoire. On va continuer de vous en raconter d'autres autour de ce Big Bang. Comment a-t-il été prouvé, notamment presque par hasard, par deux jeunes ingénieurs américains? On voyage dans l'univers ce soir sur RTL grâce aux frères Bogdanov.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et ce soir sur RTL, la curiosité est plus que jamais une qualité avec nos invités Igor et Grishka Bogdanov qui nous racontent le Big Bang, la création de l'univers. Tiens, petite question en parcourant votre bio, le producteur de l'émission Gérald Chaland dit mais il y a deux orthographes, Bogdanov avec un V ou avec deux F. Alors il se plante dans cette bio
Il a raison, Gérald. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début de notre carrière, entre guillemets, médiatique, quand on a écrit notre premier bouquin, le maquettiste nous a dit, mais quand même, on est obligé d'écrire votre nom en petit parce que il est long, il prend de la place.
Et donc,
et
il puis dit, vous êtes deux.
J'ai en plus, on est deux. Il Igor et Grishka.
Il dit,
plus.
J'ai une solution. J'ai remarqué qu'on peut écrire les noms russes avec un V à la fin. Je vous propose un V final. On a dit, ben oui, pourquoi pas? Et c'est comme ça que, en effet, nous sommes maintenant identifiés quand on écrit des bouquins avec un V et quand on fait des émissions de avec télé. Les deux F.
Ah ben voilà, on a la réponse à la très bonne question de Gérald. En lisant votre livre sur la grande théorie du Big Bang, j'ai découvert une histoire extraordinaire. On est au début des années 60 aux États-Unis et vous allez nous présenter deux jeunes ingénieurs de la compagnie de téléphone Bell, Penzias et Wilson. Sur quoi travaillent-ils?
Alors, ces deux jeunes ingénieurs, ils ont moins de 30 ans, ils viennent de passer leur doctorat en radioastronomie, donc, et ils ont été employés par une compagnie de téléphone célèbre qui s'appelle la compagnie Bell. Mm-hmm. Ils sont là pour régler le train de communication entre la Terre et des satellites. En particulier, parmi ces satellites, il y en a un qui va devenir célèbre, qui s'appelle Telstar. Oui. Telstar, c'est le premier à avoir relayé donc le signal télévisé à travers le monde.
D'accord.
Donc, leur mission était à la fois très importante et en même temps, elle était vraiment resserrée sur des aspects techniques. Mm-hmm. Donc, ils entendent tous les soirs et surtout vers 11h, minuit, ils font effectivement cette écoute très attentive de trains de communication avec les satellites. Mais ils entendent...
Donc, c'est du son, en fait.
C'est du son, oui, c'est du son, c'est des modulations de fréquence, c'est des choses comme
d'accord.
ça. Et cependant, ils entendent quelque chose qui les dérange. Très dérangeant. Une espèce de son qui est là et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, qui est uniforme et qui est partout. Alors, il commence, il dit, bon, c'est peut-être parce que l'antenne est mal, c'est une immense antenne, on est dans le New Jersey, on est à Holmdel, très exactement, on est sur une colline, on peut, avec cette antenne, qui est une espèce d'énorme cornet, on va orienter le cornet différemment, et puis, c'est peut-être la ville, ils se disent peut-être que c'est la ville voisine de Holmdel qui crée des parasites. On tourne l'antenne autrement, on bouge, rien à faire, le son est toujours là. Peut-être que ce son vient finalement un nom d'un nid de pigeon qui est là. Que oui, ils ont pensé ça parce qu'ils se sont dit, le nid est là, il va falloir l'enlever. On va, on va monter, grimper à 15 mètres au-dessus du sol. On va, péril évidemment de l'un d'eux qui finit par se rattraper au moment où il allait tomber. Bon, finalement, ils arrivent à chasser ce nid de pigeon. Ils chassent les pigeons en question.
Oui.
Mais le son, lui, est toujours là.
Il persiste.
Toujours là.
Il est têtu, ce son.
Ah, il est très têtu.
Oui.
Et une explication,
il vient de loin, c'est ça.
Il vient de très, très loin.
Il vient de très loin. Et c'est en fait tout à fait par hasard lorsque l'un d'eux, Penzias en l'occurrence, va à Princeton, qui est donc l'université voisine, pour rencontrer un de ses collègues. Et dans le train, par hasard, il rencontre un physicien et il lui raconte son histoire. Il dit, on n'arrive pas à se débarrasser de ce bruit, qu'est-ce que c'est à ton avis? Et l'autre lui dit, écoute, j'ai deux de mes collègues qui travaillent sur une question justement qui, à mon avis, devrait t'intéresser. Pourquoi? Parce que eux, ils sont à la recherche justement d'un son qui est comparable au tien. Et lorsque les Penzias et Wilson finissent par rencontrer quelques jours plus tard le physicien et son équipe qui travaillent sur cette question-là, ils le regardent comme ça et lui disent « Mes amis, vous avez mis la main sur une découverte. Nous sommes depuis 2 ans à la recherche de ce que vous avez trouvé par hasard. Ce que vous avez capté, ce n'est rien d'autre que le son du Big Bang. »
Et on va l'écouter. On dirait une moto qui décélère. C'est ça le son du Big Bang.
C'est le son du Big Bang.
Oui, c'est un peu bof.
C'est en fait.
Et donc on comprend en même temps ce que vous racontez. Là, on se dit, bah oui, c'est un son entêtant. Donc il devait les gêner. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est? Alors, mais d'où il vient? Comment on trouve ce son? Il est synthétisé. Comment on explique cette?
Alors d'abord, le fait qu'on entend, ça décroît. Hein, c'est-à-dire comme ça, ça tombe un peu dans les basses. Eh bien, c'est tout simplement là l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, ce son là qu'on entend, c'est au moment du Big Bang pratiquement, le son est très élevé, la fréquence est très élevée, mais à mesure qu'il y a expansion de l'espace-temps, évidemment cette longueur d'onde, eh bien, elle s'étend et elle croît, et c'est cette croissance de la longueur d'onde qui provoque évidemment cette décroissance dans les basses, et évidemment c'est surprenant, mais c'est une empreinte électromagnétique. C'est-à-dire, quand on parle par exemple de la lumière qui est dans ce studio, c'est des ondes électromagnétiques, mais c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est invisible. Et aujourd'hui, c'est devenu des micro-ondes. Mmh. Ces micro-ondes, on ne les entend pas, évidemment, habituellement, sauf eux, quand avec leur cornet, cette immense cornet acoustique qui était donc l'antenne de Holmdel, ils ont perçu ce son pour la première fois, qui correspond aussi, il faut le dire, à une température. Au moment du Big Bang, j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a retenu le chiffre?
Ah non, allez, il faut le redire.
On a retenu. 10 puissance 32, bravo.
André Facetta.
Bravo. Ça, il faut l'applaudir.
Donc ça, c'était la température de départ, 10 puissance 32. Donc des milliards de milliards de milliards de degrés.
Oui, 100 000 milliards de milliards. Milliards de degrés, donc c'est très 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 élevé. Ben, ça a baissé jusqu'à maintenant.
Et ben on va continuer de se passionner pour l'histoire du Big Bang, parce que sur RTL, il est 21h.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Bonjour.
La curiosité est un vilain défaut.
La jamélité, je pense, crée de l'étrangeté, même pour nous.
Bonjour.
L'autre jour, je suis au marché aux puces. Tout à coup, vient vers moi, je pense qu'il est tunisien. Et puis il me dit, c'est vous aussi votre frère? Je dis, ben non, c'est pas moi, c'est mon frère, voyons. Et lui me dit, ah c'est bien ce qui me semblait.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils ont de l'humour aussi, les frères Bogdanov. Elle est très bonne, cette vanne. Il suffit de 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang, mais il faut plus de temps pour comprendre l'histoire et raconter l'histoire de tous les scientifiques qui ont essayé de comprendre la création de l'univers. Ça tombe bien, on va prendre un peu de temps dans la curiosité. Mais d'abord, Igor et Grishka, question d'une auditrice Céline qui nous appelle du Doubs et qui nous demande, vous demande, le Big Bang, parce que moi je serais bien en mal de répondre, le Big Bang a-t-il à voir avec l'échelle de Planck et le boson de Higgs?
Oui, ah bah oui, c'est incontestable. Bravo Céline pour ta question, parce que c'est absolument ça. D'abord, pour ce qui concerne l'échelle de Planck, c'est cette fameuse longueur dont j'ai parlé tout à l'heure, une longueur qui est très petite, donc 10 puissance moins 33 cm, et puis un temps qui est très bref, 10 puissance moins 43 secondes. Donc ce sont les fractions les plus petites. C'est la plus petite longueur physique, et c'est aussi le plus petit temps.
Et c'est le point de départ de l'univers.
Et c'est le point de départ de l'univers.
Tout à l'heure. D'accord.
C'est ça, c'est le Big Bang en fait. Hein. C'est l'échelle du Big Bang, l'échelle de Planck. Donc Céline a tout à fait raison d'observer cela. Et puis le boson de Higgs, il a évidemment aussi un rapport très direct avec tout ça, parce qu'il apparaît dans ce qu'on appelle les secteurs de très haute énergie de l'univers. La très haute énergie, on l'a dit tout à l'heure, c'est... On revient sur la question.
10 puissance 32, c'est ça?
Non, 32, c'est...
c'est la température, mais c'est la température. Oui, gigaélectronvol.
Voilà, gigaélectronvol.
C'est l'énergie. Essayons c'est de ne pas nous noyer, s'il vous plaît.
Non, pas trop de chiffres.
Pas trop de chiffres. Alors donc, en effet, le boson de Higgs, il apparaît dans ce secteur de très haute énergie.
D'accord.
On sait aujourd'hui qu'au CERN, on tente de reproduire ces énergies qui ne sont pas celles du Big Bang, mais on s'approche, en tout cas, de secteurs d'énergie qui sont quand même très, très, très élevés.
Alors, merci à Céline pour cette très bonne question. Alors, je voudrais qu'on remonte dans le temps, là pour le coup, mais pas aussi loin, pour savoir que parmi les scientifiques, les chercheurs, qui sont les premiers à avoir théorisé l'histoire du Big Bang.
Tout premier est un savant qui n'a pas théorisé vraiment, mais qui s'est posé une question extraordinaire. C'était quelque part à la fin du XVIIIe siècle, et c'est un personnage qui s'appelle Olbers. Olbers, un soir... Lève le regard vers la voûte céleste et puis il voit les étoiles qui brillent sur le fond noir du ciel. Et il se pose cette question, mais pourquoi le ciel est-il noir la nuit ? Ça a l'air d'une question banale.
Et pourtant, oui,
on aurait pu tous se la poser. Oui. Bien, c'est une question qui est si profonde qu'elle donne accès pour la première fois à la preuve que l'univers n'est pas éternel et que donc il a eu un commencement.
Pourquoi ?
Alors voilà, Thomas, tu poses la bonne question. Pourquoi ?
J'essaye de suivre.
Non mais pourquoi ? Parce que, supposons que l'univers soit éternel et infini. Infini dans l'espace et éternel dans le temps. S'il est infini dans l'espace, ça veut dire qu'il y a une infinité d'étoiles, n'est-ce pas ? S'il y a une infinité d'étoiles, ça signifie que l'éclat de ces étoiles devient infini.
Infini.
Au lieu d'être... fini.
Oui.
Voilà, on a déjà un début de réponse. Et puis, s'il a l'éternité devant lui ou derrière lui, eh bien, ça veut dire que la lumière a une éternité pour parvenir jusqu'à nous. Et donc, le ciel, le soir, serait aussi brillant qu'un diamant. Il serait aussi brillant que le soleil. On n'aurait pas le ciel noir.
Bien sûr, toutes les étoiles...
Brilleraient parce qu'elles auraient eu le temps. La lumière aurait eu le temps, tout simplement.
Une infinité... d'étoiles brilleraient depuis l'éternité. Donc, on aurait effectivement un ciel qui serait d'un éclat insoutenable. Ce n'est pas le cas. Donc, Olbers s'est dit, c'est probablement la preuve que l'univers a eu une origine.
Donc, c'est un étudiant allemand, on est à la fin du XVIIIe siècle. Mais alors, si on remonte plus loin, Pythagore, Platon, qu'est-ce qu'il pensait de
l'univers ? Platon, lui, était convaincu que l'univers avait eu un début. Il pensait que l'univers avait été créé et que donc, en conséquence de cela... que l'univers n'avait pas une existence éternelle dans le passé.
Mais pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Parce que Platon était un fervent mathématicien, d'abord, le fameux théorème de Pythagore, qui porte son nom, donc Pythagore, pense, comme Platon, que l'univers a une origine. Le théorème de Pythagore nous indique que la distance entre deux points... Je ne sais pas si tu te souviens du théorème.
Non.
Si.
Allez. Non, il faut arrêter d'essayer de faire trouver les réponses à vos questions de mathématiques et de physique.
Mais si, allez.
Ça va devenir une torture, cette émission.
Le carré dans un triangle rectangle, donc le carré d'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
D'accord. Voilà. Très bien.
S2, Y2, Y2. Mais je suis sûr que tu l'as su, comme tout le monde, d'ailleurs.
Ça s'est échappé de mon cerveau.
Ça s'est échappé. Mais alors, ça veut dire, en fait, Pythagore était un très grand admirateur des nombres. Et il disait, les nombres, ça commence par 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même s'il ne croyait pas beaucoup au zéro, mais il y avait quand même quelque part un début, il s'est dit, l'univers c'est pareil, il doit y avoir un début. Et Platon pensait comme lui. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu Aristote. Alors Aristote, lui, c'est très différent.
Malheureusement, Aristote, lui, qui est l'élève de Platon, un jour, ils sont en train de deviser, de parler, et Aristote s'oppose à son maître en lui disant, mais non. Il est impossible que l'univers ne soit pas éternel. Regardez les étoiles, maître, elles ne bougent pas. Regardez l'univers, il est là depuis toujours, il est éternel. Regardez le soleil, il est éternel. Et c'est ainsi qu'il va convaincre, non pas Platon, qui lui est fermement convaincu, il le restera jusqu'à la fin de sa vie que l'univers a eu un début, mais il va convaincre tous ses élèves que l'univers est éternel. Ça va durer comme ça pendant des millénaires, jusqu'à ce que cette certitude que l'univers était éternel soit remise en cause. Parce que même Einstein lui-même était convaincu que l'univers était éternel.
Alors ça, on va en parler. Je voudrais qu'on, tout à l'heure, je voudrais qu'on dise un mot de Galilée. Pourquoi il est important dans l'évolution de la science sur cette question ?
Ben pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a été le premier à inventer la fameuse lunette astronomique. Nous sommes en décembre 1609, et c'est ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, il fait beau, la lune est pleine, et il va observer pour la première fois des détails que l'œil, évidemment, l'œil nu ne pouvait pas déceler. Par exemple, il voit qu'il y a des montagnes, qu'il y a des cratères, qu'il y a des vallées, qu'il y a des ombres. Et il se dit, et il va l'écrire sur un petit carnet, ce soir de décembre 1609, décidément, mais on y reviendra tout à l'heure, et je vais vous dire pourquoi. Il écrit ceci. Il dit, la nature est écrite dans un langage mathématique. Et c'est pour ça qu'il est très important, Galilée, et qu'on y reviendra tout à l'heure, en même temps d'ailleurs que Pythagore.
Mais on peut le dire maintenant, hein, pourquoi il a été important Galilée, on a un peu de temps. Hein.
Parce que Pythagore dit une chose qui est formidable, il dit la réalité qui nous entoure, le monde, comme on l'appelait à l'époque, repose sur une brume de nombres. Donc est convaincu qu'il y a quelque chose comme une réalité mathématique en dessous de la réalité physique. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. On se pose la question de savoir finalement, quelle est l'origine absolue de l'univers dans lequel on vit ?
Quel est finalement l'état de la réalité avant le Big Bang ?
Voilà. Eh oui.
Puisque le Big Bang, on l'a dit tout à l'heure, hein, maintenant on est très, très savant dans cette émission, puisqu'on a parlé du temps de Planck. Mm-hmm. Le temps de Planck, c'est une fraction de seconde, hein, 10 puissance moins 43 secondes, mais ce n'est pas l'instant zéro. Alors ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose avant. D'où vient cette énergie colossale qu'on appelle l'énergie du Big Bang ? Il faut remonter donc avant la nucléation de la matière pour trouver autre chose. Alors évidemment, par définition, la matière naît au moment du Big Bang, donc avant, il y a autre chose.
Et ça posera aussi certainement des questions spirituelles et religieuses. Restez avec nous sur RTL. Vous avez évoqué le nom d'Einstein, évidemment. On va voir comment il a abordé cette théorie et pourquoi il n'y croyait pas. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
C'est vrai que ce monde est merveilleux et vous nous le faites découvrir. En tout cas, vous nous expliquez la création de l'univers, Igor et Grishka Bogdanov. Alors, je disais tout à l'heure que de grands noms de la science, et notamment Albert Einstein, ne croyaient pas à cette idée.
Non, pas du tout. Einstein était persuadé que l'univers était fixe. Et il voyait cette fixité au sein même de ses équations, puisqu'il avait donc en 1916 conçu et découvert donc, les équations du champ de la relativité générale. Et dans ces équations, cependant, il y avait un problème. Le problème, c'est qu'elles décrivaient un univers qui était instable, et donc dynamique, qui pouvait bouger. Il s'est dit, c'est pas possible, quand je regarde le ciel, rien ne bouge, donc forcément, il faut que je fixe aussi dans les équations qui décrivent cet univers, il faut que je fixe donc l'univers en question.
C'est dingue ce que vous racontez, il ne croyait pas sa propre découverte d'une certaine
façon. Il n'y croyait pas, il voyait cette évolution dans ses équations, cependant il s'est dit, c'est pas possible, ça ne coïncide pas avec la réalité, donc je vais rajouter, dit-il, un terme qu'il a appelé la constante cosmologique pour fixer une fois pour toutes l'univers. C'est ce qu'il fait.
D'accord. Et donc, il y a plusieurs scientifiques qui vont essayer de le convaincre au fil des années. Dans votre livre « 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang », vous racontez notamment ce 18 septembre 1922 où Albert Einstein va se mettre en colère. Pourquoi ?
Il va se mettre en colère parce qu'il reçoit un papier qui est signé d'un Russe qu'il ne connaît pas. Et ce Russe contredit et a l'audace, parce qu'il faut bien quand même se rappeler qu'Einstein, en 1922, il a quand même le prix Nobel, c'est une statue...
C'est une star mondiale.
Et quand il reçoit ce papier en provenance de Russie, de Saint-Pétersbourg, un certain Friedman, il se dit, mais c'est pas possible. Il regarde et il voit que Friedman le contredit, en lui disant, mais écoutez, cher maître, vous êtes trompé.
Vous vous trompez
parce que les solutions de vos propres équations, les équations du champ, ne sont pas celles que vous avez introduites parce que vous avez faussé
vos équations.
Voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui.
D'une certaine façon, il les a volontairement faussées. Donc lui, il ne va pas réussir
Einstein
à le convaincre.
Il est tellement en colère qu'il froisse le papier et puis il va littéralement l'écraser à coups de talon sur le sol.
On imagine la scène.
Tellement il est furieux.
Oui, autre scène que vous racontez dans votre livre, un certain Georges Lemaître. Il est chanoine au moment où il le croise.
Oui, il est abbé, déjà. Oui.
Ça se passe à Bruxelles.
Ça se passe à Bruxelles, c'est en 1927, oui. Exactement. Et l'abbé Lemaître,
qui s'appelle l'abbé Lemaître, a découvert, lui aussi, que les fameuses équations d'Einstein ont une solution dynamique. Il ne connaissait pas les travaux de Friedman, mais il découvre que quand on lit les équations au sens strict, elles donnent accès à un univers dynamique qui a évidemment une extension, une expansion dans le temps. Et il le dit au maître. Alors le maître, enfin Einstein, répond à ce moment-là que oui, peut-être, vos solutions d'un point de vue mathématique, parce qu'il se souvenait de, évidemment de ce que Friedman lui avait dit, et il était convaincu que mathématiquement ça avait du sens. D'un point de vue mathématique, votre solution est bonne et vos mathématiques sont bonnes. Cependant, votre physique est horrible. Il m'a dit ce mot comme ça, votre physique. Donc il ne croyait toujours pas à la véritable dimension d'expansion de cet univers.
Qu'est-ce qui finira par convaincre Einstein que le, que le Big Bang a existé et que l'univers est en expansion?
Ce qu'il a vu, parce qu'en 1929, en Californie, existe un observatoire qui est le plus puissant du monde. Là, il y a un télescope qui est le plus grand du monde, 2,54 d'ouverture, sur le mont Wilson. Et il y a quelques semaines, un savant du nom de Hubble a fait une découverte extraordinaire. Il a découvert que ces objets que l'on voit très très loin dans l'univers, qu'on appelle des galaxies, qui sont des troupeaux d'étoiles, ces objets s'éloignent les uns des autres. Il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui l'expansion de l'univers. Ça veut dire que l'univers gonfle comme un ballon. Ça veut dire aussi que s'il gonfle comme un ballon, en rembobinant le film cosmique à l'envers, eh bien, on arrive à un moment dans le passé où il était tout petit petit. Cela, évidemment, n'échappe pas à Einstein, qui découvre dans le journal qu'on a fait cette découverte. Il va se rendre en 1931 au Mont Wilson. Il va coller son œil à l'objectif, il va regarder les clichés qui ont été pris, et là, il est obligé de se rendre à l'évidence. Évidemment, l'univers est en expansion, et pour la première fois, il accepte réellement cette idée que l'univers a pu avoir une origine.
Allez, on termine avec forcément la question existentielle, même si toutes les questions qu'on a abordées étaient existentielles. C'est idiot ce que je veux dire, mais est Dieu dans tout ça? Donc vous disiez avant la création, avant ce Big Bang.
Avant ce Big Bang, en fait, il y a autre chose. La matière et l'énergie, l'espace, le temps naissent au moment du Big Bang. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, il y avait ce que, justement, les philosophes grecs, notamment Pythagore, appelaient cette brume de nombre. Il y a quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas encore matériel. Cette chose qui n'est pas encore matérielle, on pourrait aujourd'hui la comprendre comme une réalité numérique, non? N'est-ce pas? C'est une sorte de nuage, de cloud, comme on dit aujourd'hui quand on parle des iPhones et des autres smartphones. Donc, ce cloud détient, en quelque sorte, contient toutes les données à partir desquelles l'univers va se développer matériellement à partir du Big Bang. Un exemple très simple peut nous permettre de comprendre comment ça marche. Un être vivant, vous, moi, tout le monde a été précédé avant de naître sous une forme physique de ce qu'on appelle un code, qu'on appelle le code génétique. Et bien de la même façon, l'univers, avant d'être physique, il est précédé d'un code que nous pourrions appeler le code cosmologique.
Allez, on va terminer là-dessus. Pas forcément d'intervention divine alors.
En fait, on peut se demander quand même qui est l'auteur du code.
Bah oui, quand même.
Qui a codé l'univers?
Qui a codé l'univers?
Comme ça, tout le monde sera content et y trouvera son compte. Merci beaucoup, Igor et Grishka Bogdanov, d'être venus dans la curiosité. Votre livre, 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang, est publié au courrier du livre.
Vous écoutez RTL.